Hey, salut Pierre-Yves.
Salut Patrick.
Donc, tu veux nous parler de... comment ça s'appelle?
Afterpay.
Afterpay, après la paye.
Ouais, ben en fait, c'est après avoir payé. C'est Buy Now, Pay Later. Fait que c'est ça, c'est une entreprise de l'Australie, Patrick, qui a lancé un nouveau concept. Tu sais, dans le moment, les commerçants doivent utiliser les terminaux, les compagnies de cartes de crédit, les sites de transactions en ligne.
Pierre-Yves, je t'interromps, là. Je lève les yeux vers LCM. Et Ottawa suspend les vols provenant de l'Inde et du Pakistan.
OK, j'ai une question pour toi.
Ça a été demandé par les partis d'opposition, par plusieurs voix au Canada à cause des variants. Bien, ça vient de se produire. Des détails tantôt.
J'ai des questions pour nos élus. Comment contrôler un vol qui part de l'Inde jusqu'en Angleterre et qui repart de l'Angleterre et qui s'en vient au Québec?
Ou de Doha ou de Amsterdam.
Exact, on en reparlera.
On verra dans l'exécution.
Donc, je parle d'Afterpay. Donc, c'est une entreprise qui fait des alliances avec des compagnies comme Roots, Aridia, toutes les compagnies qui visent les 40 ans et moins dans le commerce de détail, puis qui disent, on va vous encourager à les faire acheter, par exemple, une facture de 200 $. Le client va payer 25% à la transaction et le reste va être payé via Afterpay. Donc, quand tu vas venir pour payer, au lieu de payer avec ta carte de crédit, tu vas payer avec l'application Afterpay, qui va te répartir ça sur 6 semaines en 3 paiements faciles. Tu n'auras pas d'intérêt à payer. Là, tu te dis, mais c'est quoi le modèle d'affaires d'abord, Pierre-Yves? C'est qu'Afterpay fait des alliances avec les détaillants en leur disant, on vous prend de 5 à 8 de la facture. Donc, si tu vends pour 100 $, nous, on va te remettre 92 ou 94 ou 95 $. Mais on prend le risque de crédit, puis tu fais des transactions avec des jeunes qui n'auraient peut-être pas transigé avec toi. Alors là, ça intéresse, tu comprends, le commerçant qui voit du développement. Et Afterpay, eux, évidemment, après les 6 semaines de grâce, on imagine qu'éventuellement, ils ne vont pas charger Patrick de l'intérêt, mais des frais de transaction. Et des frais de transaction ou des frais de retard, mais c'est pas des pourcentages, c'est un frais fixe, tu comprends? Donc, on ne sait pas encore ce que ça va être, mais aux États-Unis, c'est quand même relativement élevé parce qu'ils ont une compagnie sœur aux États-Unis qui s'appelle ClearPay puis qui peut facturer jusqu'à 25% d'après ce que j'ai lu sur les internets. Alors, tu vois, le modèle est intéressant. L'analyse...
Mais le recommanderais-tu?
Ben, en fait, je recommanderais jamais d'acheter quelque chose que tu n'as pas les moyens de payer immédiatement, si c'est pas un bien durable comme une laveuse sécheuse ou une maison. Là. Oui. Mais au-delà de ça, c'est un choix de plus. Mais Patrick, ce qui est intéressant, c'est tout le marketing derrière. L'entreprise a compris une chose. Dans le moment, on dit aux consommateurs, consomme pas, fais attention, en as-tu vraiment besoin? Donc, eux, ils font l'anti-marketing. Ils misent sur l'encouragement plutôt que sur la mesure préventive. Ils misent sur la récompense de l'esprit plutôt que de faire honte à l'esprit. Donc, on dit, paye-toi les tout de suite, tu paieras plus tard. Tu sais, comme chez Pandora, j'ai vu ça aujourd'hui, offre une bague à ta blonde tout de suite, tu paieras après. Tu sais, fais-lui plaisir immédiatement.
Mais ça, je veux dire, c'est vieux comme le monde. Ton Afterpay, c'est une autre forme de crédit, mais c'est le même principe que la bonne vieille carte de crédit.
C'est un crédit contrôlé, échelonné. Tu sais, c'est comme une vente à tempérament, mais au lieu de faire une alliance, passer par le département de crédit du concessionnaire ou du compagnie ou la carte de crédit, tu passes par une application qui te dit « Je te prête 200-300$, t'achètes tout de suite, les paiements sont prévus, donc dans 2-3 semaines, quand tu vas avoir ta prochaine paye, tu vas pouvoir nous rembourser sur 3 paiements faciles. » Et donc, ça force le consommateur qui est incapable de gérer à voir ça comme un paiement. Mais maintenant, ce ne sont pas des biens de consommation durable. Et donc, si le consommateur prend cette habitude-là, bien, il y a toujours une paye en retard sur ses paiements. Mais à regarder ça aller, vous allez voir ça souvent sur Internet et chez les détaillants.
OK, tu as été candidat pour le Parti vert.
En 2007, Patrick, une très autre vie.
Mais je suis convaincu que tu aimes encore la planète et le climat. Là, il y a toutes sortes de discussions. Il y a un sommet à Washington pour sauver le climat. Comment on peut réduire les GES?
Avec le portefeuille. Puis là-dessus, je pense que Luc Ferrandez serait d'accord avec moi. Luc Ferrandez disait, comment tu peux faire bouger les automobilistes avec des one-way? Mais moi, c'était avec le portefeuille. C'est-à-dire que tant que tu ne toucheras pas au portefeuille des gens, ils ne changeront pas leur comportement parce qu'ils ne paieront pas l'externalité. Je te donne un exemple. On est en train de se battre pour avoir des cibles impossibles sur les gaz à effet de serre en fonction de notre mode de vie, dont les maisons ne cessent de grandir en pieds carrés. Mais on paye, on se dit, oui, mais ça consomme de l'énergie plus propre. Oui, mais... une fois et demie, deux fois plus d'énergie. Même chose avec les voitures. Je me fous qu'on appelle ça VUS. Moi, ce qui m'importe, c'est ça consomme combien d'énergie, c'est quoi le poids, c'est quoi la grosseur. Patrick, si tu as de la mémoire comme moi, tu te souviens que dans les années 90, on y était arrivé à changer la mentalité que les voitures en Amérique du Nord. On était passé des grosses voitures des années 70 à la fin des années 80 avec des Tercel, des Sentra. On avait même des pick-up qui étaient tout petits à l'époque. Puis là, il y a eu un renversement à un moment donné. On s'est relancé dans les voitures. Tu sais, quand tu vois un Escalade ou tu vois quelqu'un de 120 livres dans une espèce d'affaire qui peut remplir 9 personnes, tu te dis, où est-ce qu'on est rendu? Donc, on a des cibles, mais on consomme inversement. Puis dans la construction, Patrick, puis dans les biens de consommation, les matériaux ne sont pas durables. Fait que si tu mets du Canexel partout sur tes maisons qui sont mieux isolées, il en demeure pas moins que tu crées des matériaux extrêmement polluants à fabriquer puis à détruire. Et un bon exemple, c'est tout ce qui est en législation au niveau de la construction. On parle beaucoup de l'isolation, mais on a des fenêtres en PVC pareil. On n'a pas de lien direct. Puis quand on achète des biens, la seule facture éco-durable qu'on a, c'est l'éco-frais sur l'électronique. Mais tout le reste, est-ce qu'on paye le juste prix du prix de se départir et de détruire un bien?
Penses-tu... Écoute, dans ces discussions-là, ce qui me donne mal à la tête, Pierre-Yves, oui. C'est de penser... Je pense que l'activité humaine est en soi polluante à plein d'égards. Je veux dire, on n'arrivera jamais à empreinte carbone zéro puis à pollution zéro.
La pandémie actuelle est un exemple. Tu sais, on a réduit au maximum par rapport à notre vie normale, puis ça baisse pas tant que ça. Ça baisse, mais pas au niveau qu'on voudrait. Puis l'autre point, c'est de se demander, puis là, tu l'as dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus sauf toucher le portefeuille des gens? Mais là, je te donne un exemple. Les vêtements, c'est un bon exemple. En 1985, Patrick, tu peux t'acheter une paire de shorts le même prix que tu payes aujourd'hui. Pourtant, Patrick, on s'entend. Tout le reste a augmenté, mais aujourd'hui, tu vas chez H&M. Là, c'est sûr que quelque part, tu payes pas le juste prix de ce que tu consommes.